Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonjour à tous. Un peu plus de 40 000 manifestants hier un peu partout en France. Chiffre fourni par le ministère de l'Intérieur pour ce 19e acte des Gilets jaunes. Plus de monde que la semaine dernière, mais moins de débordements. Plus de 200 interpellations et une centaine de contraventions prononcées. Mais la fermeture de certains périmètres a évité la casse, comme ce fut le cas à Paris où les forces de l'ordre étaient présentes en grand nombre, Benjamin Hilly.
Ça fait peur votre musique?
C'est le but! Quand il y a les forces de l'ordre, on leur met ça pour eux. C'est le côté obscur comparé à nous.
Mais les forces de l'ordre sont restées en retrait de cette manifestation de d'enfer Rochereau au Sacré-Cœur.
C'est une manifestation sans casse, sans violence.
Manifestation déclarée, autorisée.
Si vous voulez prendre en photo la déclaration de manif.
Sophie Tissier, l'organisatrice, figure de ces gilets jaunes qui se présentent comme étant pacifiques.
C'est une vraie victoire parce que là, on montre que quand on organise en déclarant les manifs, on peut aussi être respecté par les forces de l'ordre. Vous voyez, on est entre la préfecture et le palais de justice. Il n'y a pas de sentinelle, il n'y a rien, aucune force armée.
On est là,
ça chante. Emmanuel Macron, tu veux pas qu'on soit là? Nous, on est là, on lâchera rien, Emmanuel.
Et ils arrivent à Montmartre. Les gilets jaunes sur la butte.
Blocage, manif sauvage.
Vous allez où?
Grève. On va à l'Élysée ou quoi?
Les manifestants ne sont pas restés longtemps au pied du Sacré-Cœur.
On va réveiller les policiers. Je vais me faire gazer. Allez, mon courage.
Des gaz lacrymogènes, il y en a eu très peu par rapport au samedi précédent. Quelques barricades enflammées, quelques poubelles renversées dans le 10e arrondissement avant dispersion.
Reportage de Benjamin Hilly. Autre manifestation à Londres, mais là les chiffres sont totalement différents. Plus d'un million de personnes sont sorties dans les rues pour protester contre le Brexit. Une pétition pour révoquer l'article 50 et donc la sortie du pays de l'Union a déjà récolté plus de 4,5 millions de signatures. Ce succès s'est donc traduit hier dans la rue Marina Daras.
Les organisateurs parlent de l'une des plus grandes manifestations de l'histoire britannique. Mais pour les manifestants, c'est le futur du pays qui les inquiète le plus. Philippe est écossais, il fait campagne contre le Brexit depuis la campagne de réélection de David Cameron en 2015.
Je suis ici aujourd'hui pour défendre les droits de mon petit-fils de 5 ans, parce qu'il aurait eu le droit d'étudier, de travailler, de voyager, de tomber amoureux, de se marier non seulement dans ce pays, mais dans les 27 autres pays. Et les gens, je ne pense pas qu'ils se sont rendus compte que cela allait arriver à leurs enfants, qu'on allait leur retirer leurs droits.
Ce sont justement ces mensonges perpétrés lors de la campagne du référendum de 2016 qui sont devenus, d'après William, une véritable humiliation pour le Royaume-Uni et ce qui justifie la tenue d'un nouveau référendum.
C'est évident qu'il y a eu beaucoup de mensonges de la part de ceux qui voulaient qu'on sorte de l'UE. Et ils n'ont pas expliqué que nous obtenons beaucoup plus que ce que nous donnons. Chaque nation d'Europe obtient plus en retour qu'elle ne contribue réellement. Je ne doute absolument pas que s'il y avait un deuxième vote, la majorité des gens qui ont le droit de voter voteraient maintenant pour rester. Beaucoup de gens que je connais qui ont voté pour partir ont dit qu'ils changeraient d'avis.
Bien que très motivés, les manifestants se demandent s'ils parviendront à faire pression sur le gouvernement, mais en tout état de cause, aucun d'entre eux ne compte baisser les bras maintenant.
Marina Daras et les Britanniques ont toujours jusqu'au 12 avril pour trouver une issue au Brexit. En Syrie, les questions sont nombreuses après la reprise hier par les forces démocratiques syriennes de la ville de Baghouz aux mains de l'État islamique. Si le groupe djihadiste est vaincu territorialement, cela ne signifie pas sa disparition totale. Les membres de l'État islamique sont désormais réduits à la clandestinité et certains se concentrent dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Désormais, nouvelle cible dans cette lutte contre le djihadisme, Christian Chéneau.
La traque ne fait que commencer. Vaincus militairement, de nombreux cadres et combattants de Daesh ont disparu dans la nature, ou plutôt, ils ont trouvé refuge dans la zone désertique entre la Syrie et l'Irak. D'autres se sont cachés au sein de leur tribu dans les villages de l'Euphrate. Et puis, il y a le cas d'Abou Bakr al-Baghdadi, l'homme qui avait proclamé le califat en juin 2014 depuis Mossoul. On ne sait pas s'il est toujours vivant ou s'il est mort. En tout cas, comme Ben Laden et Saddam Hussein en leur temps, il est le terroriste le plus recherché par les Américains qui ont mis sa tête à prix pour 25 millions de dollars. Après Baghouz, tous les regards se tournent désormais vers la poche d'Idlib, région au nord-ouest de la Syrie où se situe la dernière grande concentration de combattants de Daesh, présents au milieu de dizaines de milliers de djihadistes affiliés au groupe Ayat Tahrir al-Sham, la branche locale d'Al-Qaïda. Idlib déjà sous pression de la Russie et de l'armée de Bachar el-Assad.
Explication de Christian Chesneau. Au Mali, le bilan continue de s'aggraver après le massacre d'habitants d'un village Peul. Des membres d'un groupe de chasseurs Dogon sont soupçonnés d'être responsables de cette attaque. Une tuerie en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Sahel. Au Mozambique et au Zimbabwe également, le bilan ne cesse de s'accroître après le passage du cyclone Idai. Il s'établit désormais à 676 victimes, mais les secours ont toujours du mal à atteindre certaines zones du pays totalement coupé du monde. Plus de 2 millions de personnes sont touchées par ce cyclone et le risque est désormais de voir les épidémies décimer ces populations. Aux États-Unis, le contenu du rapport Mueller n'a toujours pas été dévoilé. Le procureur spécial a terminé hier son enquête sur les soupçons de collusion entre les équipes de Donald Trump et la Russie pendant la campagne de 2016. On devrait en savoir plus aujourd'hui sur les grandes lignes de ce rapport et en attendant, Loïc Loury, les chaînes américaines patientent comme elles peuvent.
Happening now, breaking news, Mueller's conclusion. Une édition spéciale quasi permanente depuis vendredi soir. Le rapport Mueller reste un mystère, alors sur les plateaux, on pose les questions importantes à défaut d'y répondre. À quelle partie de ce document sera accessible, à qui et dans quel délai? Sur ces trois points, c'est le ministre de la Justice, Bill Barr, qui a les cartes en main. Il devrait transmettre aujourd'hui ses conclusions au Congrès et peut-être au public. Les démocrates intenables appellent à une transparence totale. En attendant d'en savoir plus, Donald Trump lui est resté muet sur Twitter. Il faut dire que la Maison Blanche, pas plus que les médias ou l'opposition, n'est dans la confidence. Y a-t-il eu collusion avec la Russie? Le président a-t-il essayé de faire pression sur les enquêteurs? Ces deux interrogations agitent l'Amérique depuis presque 2 ans. Les révélations attendues pourtant ne seront pas forcément fracassantes. Personne, notamment, n'a été poursuivi pour conspiration contre les États-Unis, un point très positif pour Donald Trump. Si ce scénario se confirme, le milliardaire qui a dénoncé une chasse aux sorcières près de 200 fois sur les réseaux sociaux pourrait sortir renforcé en attendant le résultat des autres enquêtes ouvertes contre lui.
Loïc Loury. Le temps de ce dimanche, c'est une France coupée en deux. Ce sera nuageux au nord, ensoleillé au sud. Quelques gouttes de pluie entre la Normandie et la Belgique. Les températures aussi ce matin entre 1 et 8 degrés en moyenne.